Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est midi et demi en temps universel, 14h30 ici à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. La forte hausse des droits de douane annoncée hier par les États-Unis, l'Afrique n'est pas épargnée. La plupart des produits exportés vers le marché américain subiront des taxes supplémentaires de 10 à 50%. Le Lesotho et Madagascar sont les plus durement frappés. Jean-Baptiste Velu, professeur à l'université Sorbonne Nouvelle et spécialiste de la politique commerciale américaine, est notre invité. Donald Trump qui envoie également son nouveau conseiller Afrique sur le continent, Massad Boulos, est à Kinshasa où il rencontre aujourd'hui le président Félix Tshisekedi. Au Burkina, trois journalistes interpellés la semaine dernière pour avoir prononcé ou relayé des propos critiques vis-à-vis de la junte envoyée au front. Ils sont apparus dans une vidéo, le crâne rasé et vêtu de treillis militaires. Et puis les sports du football, c'était hier les quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération. L'Afrique n'est donc pas épargnée par les droits de douane annoncés hier par Donald Trump. Les produits africains exportés vers les États-Unis vont se voir imposer des taxes supplémentaires allant de 10 à 50% selon les pays à partir du 9 avril. Claire Fache, comment ces taxes ont-elles été calculées?
Eh bien, les nouvelles taxes américaines sont proportionnelles au déficit commercial des États-Unis avec leurs partenaires commerciaux. Elles sont aussi proportionnelles aux barrières douanières que les États africains ont mises en place en tant que pays en développement pour protéger leur économie. C'est donc le Lesotho qui est le plus durement taxé à hauteur de 50% parce qu'il exporte beaucoup plus vers les États-Unis que les États-Unis n'exportent vers le pays d'Afrique australe. Il s'agit essentiellement de textiles, comme pour Madagascar et Maurice, respectivement taxés à 47 et 40%. Le Botswana, exportateur de diamants aux États-Unis, est taxé à 37%. L'Angola, la Libye, l'Algérie d'au moins 30% sur leur cargaison d'hydrocarbures. La Côte d'Ivoire est taxée à 21% et là, il s'agira de son cacao.
Mais c'est l'Afrique du Sud qui risque de payer le plus lourd tribut à ces mesures.
Elle est frappée de 30% de droits de douane, mais sur un volume et surtout une valeur de produits incomparable sur le continent, avec près de 15 milliards de dollars d'exportation, dont beaucoup de véhicules, de pièces automobiles. L'Afrique du Sud représente plus d'un tiers des exportations africaines vers les États-Unis. Pretoria a depuis l'annonce affirmé l'urgence de négocier un accord de libre-échange avec Washington en lieu et place de l'AGOA qui accordait zéro droit de douane à 1800 produits africains et qui semble obsolète. Alors, les métaux de base et les métaux stratégiques sont exclus de cette salve de taxes américaines, ce qui devrait épargner le cuivre et le cobalt de République démocratique du Congo.
La guerre commerciale lancée par Donald Trump frappe donc très durement Madagascar, on le disait, avec des droits de douane fixés à 47% sur les produits en provenance de la Grande Île, à l'exception de certains minerais. Madagascar est le deuxième pays du continent le plus taxé par les Américains, après le Lesotho. Et sur la Grande Île, cette annonce est un véritable coup de tonnerre pour plusieurs secteurs d'activité qui vivent en grande partie des exportations vers les États-Unis, Guilhem Fabré.
Avec 70% de ses exportations destinées aux États-Unis, le secteur de la vanne malgache est l'un des plus menacés par les nouveaux tarifs douaniers imposés par Donald Trump à Madagascar. Les professionnels de la filière redoutent que la vanille produite en Ouganda leur fasse de plus en plus concurrence alors que ce pays n'est taxé qu'à hauteur de 10% par les Américains. Autre secteur en danger sur la Grande Île, le textile. Près de 40% des exportations de vêtements malgaches ont pris la direction des États-Unis en 2023. La décision américaine est une catastrophe pour l'un des responsables de cette industrie qui estime qu'au moins 60 000 emplois sont en péril. Une inconnue demeure cependant sur la date d'entrée en application des nouveaux tarifs douaniers américains. Donald Trump a annoncé le 9 avril, mais bon nombre de produits malgaches exportés aux États-Unis sont exemptés de droits de douane dans le cadre de l'AGOA, un accord de libre-échange en vigueur jusqu'au mois de septembre. En milieu de journée, la ministre des Affaires étrangères malgache a promis d'activer tous les leviers diplomatiques et commerciaux pour garantir un accès équitable des produits malgaches au marché américain. Guillaume Fabrion, Tananarive, RFI.
Et dans la deuxième partie d'Afrique Midi, Jean-Baptiste Velu, spécialiste de l'économie et de la politique commerciale américaine, est notre invité. Le nouveau conseiller Afrique de Donald Trump a entamé une tournée sur le continent africain. Massad Boulos, qui était déjà conseiller principal du président américain pour les affaires arabes et du Moyen-Orient, est arrivé hier soir en République démocratique du Congo. Il doit ensuite se rendre au Rwanda, au Kenya et en Ouganda. Et pour son étape quinoise, Polynasie dit, il doit rencontrer le président Félix Tshisekedi.
Oui, et la rencontre qui était en cours il y a encore une petite heure, selon un conseiller du président Félix Tshisekedi. C'est donc le premier chef d'État africain avec qui s'entretient Massad Boulos depuis sa récente nomination. Et ici, à la présidence, on estime que cela dénote un intérêt et ou une urgence de la situation. Massad Boulos n'est pas arrivé seul puisqu'il est accompagné de plusieurs sous-secrétaires d'État et du directeur national de la sécurité pour l'Afrique. Donc une délégation assez conséquente. Au programme de cette visite, nous sommes obligés de parler de la guerre, explique un proche du président Tshisekedi. La situation à l'Est est donc au cœur de l'entretien du chef de l'État avec les représentants américains. Mais il est aussi question de business, ajoute notre source. Il faut notamment évoquer le corridor de Lobito. Ce projet porté par l'ancienne administration Biden qui prévoit la construction d'une ligne ferroviaire pour relier la Zambie à l'Atlantique via la RDC et l'Angola afin d'exporter les ressources minières. Mais tout va ensemble, nuance un proche du dossier, puisque ce genre de projet ne peut fonctionner qu'avec la sécurité. Une allusion au partenariat minier en discussion entre Kinshasa et Washington. Les États-Unis pourraient apporter une aide à la sécurité en échange d'une facilité d'accès aux minerais rares qui se trouvent dans le pays.
Pauline Azidi en direct de Kinshasa, dans l'est du Congo, justement, au nord Kivu. Les rebelles de l'AFC M23 ne sont plus visibles depuis hier soir à Walikale et Centre, le chef-lieu du territoire du même nom qu'ils occupaient depuis 2 semaines. Selon des témoignages recueillis par RFI, les premiers éléments des FARDC et des Wazalendo sont même arrivés sur place. Estras Dikoumana, que s'est-il passé?
Eh bien Nicolas, selon un témoin sur place, le retrait des combattants de l'AFC M23 aurait débuté hier matin en direction de Goma, c'est plus à l'est de la RDC, sans qu'ils sachent exactement pourquoi ils étaient en train de se retirer de cette localité. Les habitants de Walikale Centre ont finalement constaté qu'aucun élément rebelle n'était plus visible aux principaux points qu'ils occupaient dans la cité dès hier soir. C'est à ce moment-là que les premiers soldats congolais accompagnés de Wazalendo sont arrivés. Ils ont été rejoints par d'autres éléments des FARDC ce matin. Pour le moment, une certaine confusion règne. Aucun officiel congolais ne s'est exprimé jusqu'ici pour revendiquer la reprise de cette cité charnière qui était tombée aux mains de l'AFC M23, appuyée par le Rwanda depuis le 19 mars dernier. Depuis 3 jours, des sources au sein du mouvement rebelle évoquaient un retrait imminent de Walikale Centre, présenté officiellement comme un geste de bonne volonté dans le cadre de négociations directes avec Kinshasa qui pourraient avoir lieu à Doha où les deux parties étaient déjà représentées la semaine dernière. Mais selon d'autres sources, l'AFC M23 faisait également face à des difficultés de ravitaillement et subissait une pression militaire constante des FARDC appuyés par les milices Wazalendo.
L'actualité au Burkina Faso, c'est la première fois qu'on les voit depuis leur arrestation la semaine dernière à Ouagadougou. Les journalistes Gezouma Sanogo, Boukari Ouoba et Luc Pakbelgem sont apparus tous les trois dans une vidéo qui les montre en tenue militaire. Ils avaient été emmenés sans motif ni mandat par des hommes en civil après des déclarations sur les entraves à la liberté de la presse depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Cette vidéo qui circule confirme donc que les trois journalistes ont bel et bien été réquisitionnés, Sidi Yansané, et qu'ils sont au front.
Oui Nicolas, dans cette vidéo on voit Gezouma Sanogo et Boukari Ouoba, respectivement président et vice-président de l'association des journalistes du Burkina Faso, et au milieu se tient le reporter de la chaîne privée BF1, Luc Pagbelgem, en uniforme, dans le désert, sur ce qui s'apparente à un centre de recrutement ou d'entraînement militaire, d'après l'attitude des personnes en arrière-plan devant un micro tendu. Luc Pagbelgem affirme que le terrain, c'est une autre réalité. Je le cite, tout ça. On a vu le butin que l'armée a saisi. Qui donne tout ça aux terroristes? Et puis le micro passe à Boukari Ouoba. Nous sommes arrivés ici dans des circonstances particulières, mais nous apprécions car on peut mieux rendre compte. Ça, c'est ce que déclare notre confrère, qui pourtant lui-même est réputé être l'un des meilleurs reporters de sa génération. Ce genre de vidéo n'a rien d'inédit. L'an dernier, l'ancien ministre Ablassé Ouédraogo, âgé de 70 ans, était aussi réapparu arme à la main dans une vidéo. Et il y a 2 ans, c'était Boukari Ouédraogo, président du mouvement L'Appel de Kaya, et surtout connu pour être un malvoyant. À l'époque, le capitaine Ibé avait reconnu avoir personnellement donné l'ordre de le réquisitionner en déclarant que ceux qui critiquent doivent se contenter de dormir et laisser les autres travailler.
Au Mali, l'armée donne sa version au sujet du drone abattu dans la nuit de lundi à mardi à la frontière algérienne. Elle assure que l'aéronef n'est pas entré sur le territoire algérien, David Bachet, contrairement à ce qu'avait dit Alger.
Ce drone survolait l'espace aérien malien. Il est tombé dans le territoire malien. C'est le chef d'état-major général des armées du Mali en personne qui l'affirme, apportant un démenti catégorique au ministère algérien de la Défense. Bamako n'avait jusque-là pas réagi à la revendication de l'Algérie qui assume la destruction de ce drone au motif qu'il avait, selon Alger, pénétré de 2 km à l'intérieur du territoire algérien et qu'il s'agissait donc de préserver les frontières nationales de toute menace. Mais le général Oumar Diarra assure que ce drone opérait bien dans les limites du territoire national. Les débris de l'engin ont été retrouvés du côté malien de la frontière, près de la ville de Tinzawaten, par les rebelles indépendantistes du FLA, dont c'est une zone refuge. C'est d'ailleurs le FLA qui avait révélé la chute de ce drone en publiant des images des débris sans expliquer clairement l'origine du crash. Le démenti malien aux accusations de l'Algérie ressemble aux prémices d'une nouvelle crise diplomatique entre les deux pays. Dans sa déclaration, le chef des armées du Mali précise toutefois attendre les conclusions officielles de l'enquête en cours. Toute personne ou organisation qui tenterait de s'opposer à la sécurité et à la stabilité du Mali sera combattue, affirme également le général Diarra, sans jamais citer l'Algérie.
Des réactions indignées toujours après la libération de Moussa Dadis Camara en Guinée. Le capitaine putschiste qui avait été condamné à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité a été gracié vendredi pour raison de santé par le général Mamadi Doumbouya. Après les inquiétudes affichées par l'Union européenne, l'ONU dénonce une atteinte à l'état de droit et appelle à l'annulation de cette grâce. Seif Magango est le porte-parole du Bureau des droits humains des Nations Unies.
Nous étions dans la procédure des recours, puisque Moussa Dadis Camara a fait appel de sa condamnation à 20 ans de prison. Si les autorités de transition avaient un minimum de respect pour la procédure judiciaire, elles auraient au moins pu attendre que le procès en appel aboutisse avant de faire quoi que ce soit. Donc il y a vraiment un problème dans la forme, dans la manière même dont on lui a accordé cette grâce présidentielle, alors que la procédure initiale était encore en cours. Les victimes et les familles des victimes tuées et violées au stade de Conakry ont attendu qu'on leur rende justice pendant plus de 16 ans. Que cette grâce soit accordée à Dadis juste maintenant, alors qu'on commençait à constater des efforts pour l'application de la justice et la lutte contre l'impunité, c'est très très décevant. C'est pour ça que nous demandons que cette grâce soit abandonnée, afin de laisser aboutir la procédure en appel.
Seif Magango, joint par Sidi Yansané. Au Sénégal, la loi d'interprétation de l'amnistie a été adoptée hier à 126 voix pour. Cette amnistie adoptée l'an dernier par l'ancien président Macky Sall pour toutes les violences politiques est donc révisée au terme d'une journée d'intenses débats. Reportage Léa Lisa Westerhoff.
Dans une ambiance électrique, pendant plus de 8 heures, des dizaines de députés du PASTEF se sont relayés à la tribune pour dire l'urgence de rendre justice aux trop nombreuses victimes des manifestations de l'opposition sous les 3 dernières années du régime de Macky Sall. Corriger cette loi d'amnistie afin de juger les auteurs d'assassinats, de meurtres et de tortures, c'était la meilleure option pour lutter contre l'impunité, selon le chef du groupe parlementaire du PASTEF, Aïb Dafé.
Que ça ne se reproduise plus, c'est en réalité ça qui se joue aujourd'hui. En tout cas, cette interprétation permet d'apporter la lumière sur des faits particulièrement grave, permet également de rendre justice à ces victimes parce qu'on parle de plus de 85 morts et le bilan n'est pas définitif parce qu'il n'y a jamais eu d'enquête.
Des enquêtes qui vont pouvoir être ouvertes désormais, mais en face, les députés de l'opposition ont dénoncé un deux poids deux mesures car les auteurs des saccages et de pillages resteront couverts par l'amnistie. Pour le député de l'opposition, Tierno Alassane Sall, c'est une façon de protéger les militants du PASTEF et ses dirigeants.
Ça qui est inacceptable, c'est d'essayer justement au nom d'une graduation dans la douleur, de ne pas respecter la douleur et la souffrance des uns au prétexte qu'il ne s'agit pas de crimes de sang. Et qui veulent-ils couvrir? En réalité, ils veulent couvrir celui qui a appelé les gens à manifester.
À peine la nouvelle loi adoptée, le parti de l'ancien président, l'APR, s'est fendu d'un communiqué dénonçant une loi scélérate qui incrimine les forces de défense et de sécurité. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Il est midi 44 à Dakar.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, de nouvelles pièces de monnaie mises en circulation dans l'espace CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Et puis les sports du football avec les quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération hier. On écoutera enfin le nouvel album du groupe Centrophie, ambassadeur du High Life ghanéen. La Banque des six États de l'Afrique centrale, la BEAC, a mis en circulation hier une nouvelle gamme de pièces de monnaie. Cette initiative s'inscrit dans la modernisation et la continuité des moyens de paiement en espèces dans les six pays de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de la région. Reportage à Brazzaville, Loïcia Martial.
C'est le gouverneur de la BEAC, Yvan Sana Bangui, qui a lancé cette nouvelle gamme de pièces de monnaie. En visioconférence depuis Bangui, la capitale centrafricaine. Une initiative très attendue à Brazzaville.
La monnaie est vraiment la bienvenue parce que ça va résoudre beaucoup de problèmes ici.
Dans les marchés et dans la circulation, les déplacements, on a souvent la pénurie sur le problème des pièces. Au moins là, on aura, au moins le problème des pièces sera réglé.
Oui, c'est une très bonne chose. On sait qu'il y avait maintenant rareté des pièces de monnaie dans notre sous-région. Et c'est qui souvent créait même des disputes entre acteurs économiques parce qu'il y en a qui se retrouvaient sans petite monnaie pour rembourser. Et donc, c'est une très bonne nouvelle qui va certainement conforter les usagers que nous sommes.
La nouvelle gamme comprend des pièces de 200 francs CFA, mais leur introduction suscite des interrogations, notamment chez l'analyste économique Alphonse Ndongo, qui craint une hausse des prix, en particulier dans les transports.
Oui, pour moi, la pièce de 200 francs pose quand même problème dans la mesure où elle crée une espèce d'inflation mécanique.
La BEAC prévoit d'injecter 500 millions de francs CFA en pièces par an pour atteindre 3 milliards de francs CFA en 2030. Loïcia Martial, Brazzaville. RFI.
Les sports du football avec les quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération hier mercredi et la mauvaise opération Olivier Pron de la SEC Mimosa.
Ouais, où l'expression Nicolas, dominer n'est pas gagner, c'est encore vérifié, comme souvent au foot, il faut le reconnaître. Les Mimos d'Abidjan ont donc malmené vivement le champion du Maroc, la RS Berkane, un manque cruel de réalisme et un but vraiment ballot encaissé en seconde période. Il s'incline 1-0 Félicia. Il faut gagner vite en maturité, a dit à Youen Gourlet, l'entraîneur des Mimos, Julien Chevalier.
On espérait faire mieux, même si on savait qu'on avait un adversaire de gros calibre en face de nous et que nous, on est une jeune équipe. On a fait de bonnes choses, on a laissé passer l'opportunité en première période où on s'est créé des occasions, on les a mis en difficulté. Après, ils se sont restabilisés un petit peu, peut-être en pensant que le nul serait un bon résultat. Et sur une action un petit peu anodine, on a manqué, peut-être qu'on a montré quelques défauts qu'on a, de maturité, de capacité à gérer des situations qui sont pas très dangereuses si on l'anticipe.
Match retour dans 8 jours, il faudra anticiper hein, à Berkane où les Marocains n'ont plus perdu en match officiel depuis 6 mois. C'est dire si ça s'annonce compliqué quand même pour les Ivoiriens.
Les autres quarts hein, de cette Coupe de la Confédération, Olivier, plutôt équilibré.
Ouais, à l'exception peut-être des Égyptiens d'Al-Masri qui s'imposent 2-0 chez eux sur les Tanzaniens de Simba. Pas de vainqueur ailleurs. 0-0 entre Stellenbosch, les Sud-Africains et le Zamalek du Caire. Et un partout dans le choc algérien entre le CS Constantine et l'USM Alger. Ouverture du score de Mounder Temine en première période. Égalisation de l'USMA signée par le Congolais Kevin Mandeko. Et à l'arrivée, une plutôt bonne opération pour son compatriote et coéquipier Glody Likonza.
Un match à l'extérieur avec des buts marqués, c'est vraiment avantageux pour nous et j'espère bien qu'au match retour on va essayer de gagner sans encaisser. Ça sera encore un match très très difficile parce que je sais que CSC va essayer aussi de marquer, voilà, ça serait un match très serré et en même temps très ouvert.
Ben le foot, quoi, en somme, hein, le but du jeu, c'est de marquer des buts, donc c'est bien d'essayer de le faire. Il a raison, Glody Likonza. les secondes manches sur de ces quarts de finale se joueront mercredi prochain. On a hâte.
Merci Olivier Pron. Il est 14h49 à Paris. Anne Cantner, les grands titres de ce jeudi 3 avril.
Partout dans le monde, les réactions aux nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump, auxquels quasiment aucun pays n'échappe. On va en reparler avec votre invité dans un instant. Les cours du pétrole dégringolent, les marchés mondiaux et le dollar chutent. Et déjà, certaines entreprises prennent des mesures. Stellantis, par exemple, va fermer son usine Chrysler au Canada pour 2 semaines pour l'instant. Le Premier ministre espagnol annonce un plan de plus de 14 milliards d'euros d'aide pour les entreprises les plus touchés et Emmanuel Macron reçoit, lui, à Paris, les groupes français affectés par ces mesures cet après-midi. La Hongrie se retire de la Cour pénale internationale. Le Premier ministre l'a annoncé à l'occasion de la visite à Budapest de son homologue israélien Benjamin Netanyahou, sous mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza, où la guerre se poursuit. Et l'armée israélienne bombarde aussi la Syrie. Elle a détruit un aéroport militaire et fait une incursion dans le sud du pays. Les nouvelles autorités de Damas accusent Israël de vouloir déstabiliser la Syrie. Les États-Unis ont donc déclenché une offensive mondiale commerciale en annonçant un droit de douane plancher de 10% sur toutes les importations et des majorations très importantes pour certains pays présentés comme particulièrement hostiles en matière commerciale. L'Afrique n'est pas épargnée, avec des droits de douane allant de 30 à 50% pour 9 pays, des droits entre 10 et 20% pour une dizaine d'autres. Jean-Baptiste Velu est professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle à Paris, spécialiste de l'économie et de la politique commerciale américaine. Et il est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Jean-Baptiste Velu.
Bonjour.
En 2024, l'Afrique exportait pour presque 40 milliards de dollars aux États-Unis. C'est peu comparativement à d'autres continents. Est-ce que ça limite les dégâts pour l'Afrique ou pas ?
Visiblement non, puisque l'administration Trump a décidé de taxer à hauteur de 50% certains pays. L'Afrique, dont le commerce bilatéral est négligeable quand on sait les flux d'échanges que brassent les États-Unis.
Oui, ce sont de petites économies, hein, le Lesotho ou Madagascar qui prennent le plus cher. Et donc c'est uniquement parce que les États-Unis n'y vendent pratiquement rien.
C'est un calcul, une formule mathématique finalement assez douteuse qui fait complètement abstraction du niveau de développement des pays concernés, qui ne considère pas le type de marchandises et est-ce qu'elles sont finalement remplaçables, substituables sur le marché américain. Donc c'est une formule finalement qui n'a été préparée à la va-vite pour plaire à Donald Trump, me semble-t-il.
Quels sont les pays en Afrique qui ont le plus à perdre, ceux qui ont des échanges commerciaux les plus importants en volume et en valeur avec les États-Unis, l'Afrique du Sud notamment ?
Oui, je pense que c'est principalement les pays, enfin, je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs qu'on peut prendre en considération. Je pense que les pays les plus vulnérables seront ceux qui sont le plus ouverts vers l'extérieur, c'est-à-dire qui ont essayé de développer leur secteur d'exportation. Et là-dessus, on ne peut que regretter que des pays comme l'Afrique du Sud ou les Lesotho, qui dans le cadre de l'AGOA, qui est un accord préférentiel avec les États-Unis, avaient fait un effort de diversification de leurs exportations, qui aujourd'hui est remise en cause par l'administration Trump.
L'AGOA, justement, cet accord qui permet aux pays africains d'exporter sans droit de douane leur production vers le marché américain, de facto, il est mort et enterré.
Oui, il arrive à expiration en septembre, mais on voit que l'administration finalement fait fi de ses accords, de ses alliances, de ses partenariats et applique, dans le cadre de cette journée de la libération dont le nom est très mal choisi, me semble-t-il, tout est remis en cause aujourd'hui.
Alors, à contrario, des exemptions ont été annoncées pour certains produits, certaines matières premières, des matériaux stratégiques ou précieux. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les pays qui en produisent. On pense notamment à la République démocratique du Congo.
Oui, ce sont des exceptions, effectivement, qui reflètent la conception de la sécurité économique et l'attention qu'apporte Donald Trump à ces minerais critiques. En revanche, on parlait tout à l'heure de Madagascar, des produits comme la vanille ne sont pas considérés comme une forme de sécurité économique et on imagine difficilement demain que les États-Unis pourront produire eux-mêmes de la vanille. Comme vous le savez, ce n'est pas possible. Madagascar produit 80% de la vanille au monde.
Le ralentissement mondial qu'on craint avec cette guerre commerciale peut-il pénaliser les investissements internationaux en Afrique ? Je pense notamment aux investissements chinois.
C'est une bonne question parce que je pense qu'il y a à la fois effectivement des restrictions et des effets néfastes qui vont empêcher la Chine, voire d'autres partenaires comme l'Union européenne, d'investir parce que ces pays seraient taxés par les mesures de Donald Trump. D'un autre côté, il y a aussi des effets d'aubaine qui font que le retrait américain en matière d'aide extérieure et ces nouvelles sanctions imposées aux pays africains laisse un boulevard à la Chine, à la Russie, en Afrique de l'Ouest, à l'Union européenne, pour à travers un certain nombre d'initiatives commerciales ou autres ou de développement pour reprendre une place plus importante au sein de l'Afrique.
Le bénéfice de cette politique pour les États-Unis eux-mêmes semble donc extrêmement sujet à caution et à interrogation à l'heure actuelle.
Bien sûr, et je crois que cette formule mathématique ne prend pas en compte la complexité des chaînes de valeur, ne prend pas en compte les différents niveaux de développement. C'est quand même assez surprenant de voir le manque de préparation d'une administration qui nous parle de protectionnisme depuis avant 2016 et qui finalement, jusqu'au dernier jour, a improvisé une formule abracadabrante au reste du monde.
Jean-Baptiste Velu, merci. Cet entretien sera à retrouver sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Ambassadeur du High Life ghanéen, le groupe Santrophy dévoile son nouvel album Making Moves. 8 titres éclectiques et engagés, naviguant entre le passé et le présent de la scène musicale ghanéenne. Carmen Lunsman.
Honorer le High Life ghanéen sous toutes ses formes et fusions, c'est la mission de Santrophy depuis la création du groupe en 2018. Ces 8 musiciens originaires d'Accra, la capitale du Ghana sur la côte atlantique d'Afrique de l'Ouest, allient ingénieusement accent funk, rap et afrobeat à un genre musical né au début du XXe siècle. Sous leur impulsion, le High Life, issu de fanfares militaires, musique d'église et chants de marins, enrichi par des influences jazz et calypso, part en exploration de nouveaux horizons. Le titre Making Moves, qui donne son nom à leur album, les a propulsés au sommet des classements de musique du monde en Europe en mars dernier. S'inspirant de la vie quotidienne, Santrophy reste fidèle à l'héritage du High Life. Les chansons évoquent la difficulté de la vie dans les rues tumultueuses d'Accra, métropole de près de 5 millions d'habitants, où lancent des appels politiques à l'approche des élections au Ghana en décembre dernier. Ne faites pas de promesses que vous n'êtes pas prêts à tenir, chantent ces philosophes du High Life en langue ghanéenne et anglaise, pour transmettre leur message à travers une musique résolument rétro-futuriste et festive.
Making Moves, le deuxième album de Santrophy chez Out Here Records. C'est ainsi que s'achève cette demi-heure africaine réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Cécile Périllard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un peu moins de 2 minutes, selon votre zone d'écoute, Anne Cantner pour le rendez-vous de Haïti et des Amériques. 30 minutes d'infos en full day ou notre session en langue portugaise. À demain.
Priorité Santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
Dans notre émission Questions de femmes, comment gérer ses émotions, colère, peur, tristesse, retrouver l'apaisement sans oublier son ressenti.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Diarra Ndiaye attend vos témoignages sur le thème de demain.
Elles se soutiennent, s'élèvent, se comprennent d'un regard. Loin des clichés de rivalité, l'amitié féminine est un lien puissant. Pourquoi ces relations sont-elles si essentielles? Comment traversent-elles le temps et les épreuves?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
L'art de raconter le monde, Jean-François Cadet.
Pour la première, une bande dessinée qui raconte, avec humour, les cicatrices de la guerre d'Algérie dans la société française. Trou de mémoire de Nicolas Juncker. Grosse embrouille autour de la création d'un musée entre une historienne pointilleuse, des politiciens ambitieux et un artiste imbu de lui-même. Instructif et savoureux.
L'art de raconter le monde avec Jean-François Cadet, samedi à 18h41 sur RFI.